est absolument essentiel.
Oui, absolument.
Absolument pas. Absolument.
Essentiel. Une émission présentée par Thomas Lacombe.
Pour le bon stratège, l'essentiel est dans la victoire, non pas dans les opérations prolongées. Sun Tzu, l'art de la guerre. Bonjour. Cette semaine, on continue de feuilleter le livre « L'extension de la guerre » paru en ce début d'année aux éditions Robert Laffont en compagnie de son auteur, le consultant défense et stratégie de France 2, le colonel de réserve Pierre Servent, qui m'a reçu chez lui à Versailles. Et nous avons parlé géopolitique, terrorisme, retour des fondamentalismes et du messianisme. Nous avons évoqué Daesh, Barack Obama, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan, nous avons même parlé d'amour. Si, si. Bref, uniquement des choses absolument essentielles. Rencontre.
Bonjour Pierre Servent.
Bonjour.
Dans votre livre « L'extension du domaine de la guerre », vous n'êtes pas tendre avec Barack Obama. Vous écrivez notamment « Les États-Unis, traumatisés par l'Irak et l'Afghanistan, étaient devenus un tigre de papier dirigé par un prix Nobel de la paix pusillanime ». Est-ce que derrière cette grille de lecture, est-ce qu'on ne retrouve pas quand même un petit peu la vieille rhétorique républicaine qui veut que, de toute façon, les démocrates ne veulent pas et ne savent pas faire la guerre ?
Non, en tout cas, c'est pas ma grille. Et très honnêtement, je n'ai aucun regret de Bush, qui est en partie responsable du chaos mésopotamien. En partie seulement parce que les antagonismes, notamment entre chiites et sunnites, sont préalables à l'attaque de 2003. Mais j'étais un des farouches opposants dans les médias français à l'opération militaire de 2003. J'ai applaudi des quatre mains à la position intelligente de Chirac, qui sait ce que c'est que la guerre, parce qu'il l'a faite, lui, comme jeune lieutenant en Algérie. Il sait ce que ça représente. Et encore une fois, Obama est un personnage tout à fait estimable sur le plan personnel, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je crois qu'il était complètement inadapté. Et pour tout vous dire, pour vous livrer un témoignage personnel, j'en ai eu l'intuition très tôt, parce que j'étais en Afghanistan en 2009 et que j'avais rencontré à cette occasion le général McChrystal, qui était un homme de Petraeus, le général Petraeus, qui est celui qui avait très intelligemment monté le surge en Irak à partir de 2006-2007 pour lutter contre Al-Qaïda. Et Petraeus, c'est l'exemple même du général intelligent, capable de s'entourer, qui comprend très bien que l'option militaire n'est certainement pas celle qui permet de tout régler. Et ce qui est exactement ma position, il faut l'utiliser, mais croire qu'on va régler avec la guerre et les opérations militaires ce type de problème, c'est une vraie erreur. Il y a bien d'autres dimensions. Et McChrystal avait fait demande à Barack Obama d'un renfort pour faire un surge, un sursaut en Afghanistan sur le même modèle que ce que son maître à penser Petraeus avait fait en Irak. Barack Obama a mis des semaines et des semaines avant de prendre une décision. Et la plus mauvaise des décisions, qui est toujours le symbole, pour moi, de la difficulté du chef à trancher, c'est-à-dire qu'il a fait moite-moite. Donc il a pris la moitié de ce qui était demandé, ce qui fait qu'il s'est mis à dos ceux qui disaient « de toute façon, il faut se désengager complètement, il ne faut plus de soldats », et il s'est mis à dos McChrystal et les militaires qui disaient « non, on a besoin de ce volume de force, c'était 30 000 ou 50 000, pour vraiment arriver à retourner la donne, donner confiance à la nouvelle armée afghane pour changer les choses ». Voilà. Et pour continuer, je me souviens sur un plateau de télé, on était encore dans le premier mandat, vers la fin du premier mandat de Barack Obama, je développais déjà cette analyse. Je veux dire aussi, c'est pas pour moi, je m'envoie pas des fleurs parce que j'ai peut-être tort, mais en tout cas j'étais le seul à dire ça parce que Obama jouissait d'une image extrêmement positive, et donc je développe ce qu'on vient de se dire sur le fait qu'il est trop intelligent. Et j'étais dans une émission sur BFM Radio, qui s'appelle Good Morning Weekend, j'étais avec Vladimir Fedorovsky, qui est un ancien diplomate de l'époque soviétique, écrivain, etc. Et Vladimir s'enflamme en disant « Pierre, Pierre, mais vous avez complètement raison. Regardez la tentative de putsch contre Gorbatchev en Russie, à Moscou. Vous savez qu'à un moment, il y a eu un début de putsch militaire pour arrêter le processus de disparition du Parti communiste, etc. Et il dit « Il y avait Gorbatchev et Eltsine, qui étaient très intelligents. » Gorbatchev. Qui a trouvé ce qu'il fallait faire pour arrêter le putsch ? Eltsine, qui était un poivreau peu intelligent. Mais qui trouve l'idée de sortir et de monter sur les blindés pour faire un appel au peuple et aux militaires pour arrêter le putsch ? C'est pas Gorbatchev, c'est Eltsine. Donc parfois, dans ce type de situation difficile, il faut pas des abrutis, mais des personnes peut-être moins sophistiquées sur le plan intellectuel, peut-être moins normaliens, et plus des gars des Khazars.
C'est dit. Alors cette phrase que je citais tout à l'heure, celle du tigre de papier, vous l'avez écrite donc dans votre livre à propos du contexte du mois d'août 2013. Bachar el-Assad vient alors d'utiliser l'arme chimique contre sa population. Les États-Unis décident d'agir avec l'aide de la France et du Royaume-Uni, mais finalement, l'histoire le retient, les États-Unis puis le Royaume-Uni reculent devant cette intervention, ce qui rend impossible la mise en œuvre d'un plan d'attaque qui visait non seulement les positions de Damas, mais aussi celles de djihadistes comme Al-Nusra, ce qui aurait redonné de l'air à la rébellion. Ce fut, de la part de nos alliés anglo-saxons, écrivez-vous, une sorte de Munich oriental aidé par les Russes, dont nous n'avons pas fini de payer le prix, comme en 1938. Vous n'y allez pas un petit peu fort ?
Non. Je crois vraiment que c'est cela. Je peux me tromper, mais je pense vraiment que ça a été un fiasco terrible qui a créé une onde de choc en profondeur. Donc double, un effet qui se coule dramatique. Le premier, il est celui que je rapporte dans le livre, c'est-à-dire que vous avez la première puissance militaire américaine qui dit, vous voyez là, il y a une ligne rouge. Si elle est franchie, on va frapper. Il y a un type qui franchit la ligne rouge, et vous avez le gars qui est là, qui est empêtré avec son annonce, sa promesse, et qui cherche le premier moyen de s'en tirer, de ne pas faire ce qu'il a dit.
Et qui ne frappe pas.
Donc le premier effet négatif, c'est que très concrètement, selon moi, sur le plan strictement militaire, alors que Daesh n'a pas encore complètement émergé, et que dans les plans de frappe, il y avait non seulement tout ce qui était lié au chimique, mais également les groupes d'Al-Qaïda, c'est-à-dire d'Al-Nusra, ce qui aurait permis de redonner du tonus à la rébellion, on passe à côté, et donc véritablement, c'est les reculades de 38 face à la montée du nazisme. Alors en l'occurrence, l'adversaire là, c'était Damas, mais il y aurait eu un effet vertueux à frapper Damas et les groupes de combat djihadistes. Mais le second effet, qui est terrible, c'est qu'un certain nombre de pays se sont dit « il n'y a plus de pilotes dans l'avion américain, on peut faire ce qu'on veut ». La Russie de Poutine, pour moi la Crimée est une conséquence de 2013, je l'ai dit et redit à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'en fait cette posture, il n'y a plus de gendarmes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le gendarme américain, il n'y a plus de gendarme. Donc je reviens à une stratégie de puissance personnelle, c'est un des points forts du livre, le retour des stratégies impériales et le retour de la messianisation d'un certain nombre de personnages ou de la fondamentalisation d'un certain nombre de personnages.
Alors vous avez prononcé le mot de messianisme dans votre comparaison avec Hitler notamment, certains parlent d'ailleurs d'islamo-fascisme pour décrire Daesh. Il y a une certitude qui est d'ailleurs présente dans le titre de la deuxième partie de votre livre. Le monde d'aujourd'hui, c'est celui de l'expansion des fondamentalismes et une expansion qui s'accompagne du retour du messianisme. On en a parlé déjà un petit peu, celui d'Al-Baghdadi à la tête de Daesh, celui de Recep Tayyip Erdogan aussi à la tête d'une Turquie réislamisée et conservatrice, d'où l'ambiguïté d'Ankara vis-à-vis de l'État islamique. Mais aussi le messianisme de Benjamin Netanyahou également en Israël, qui n'en finit pas de craindre un holocauste nucléaire et de prôner l'Alia. Mais aussi le messianisme, et ça m'a étonné, de Vladimir Poutine. Alors Vladimir Poutine, c'est le messie orthodoxe ?
Tout à fait. Mais d'ailleurs, même si ça peut paraître paradoxal, on peut être tout à fait messianique, se sentir investi, et être athée. Xi Jinping, donc le nouveau prince rouge, le nouveau empereur rouge de Chine, est tout à fait dans cette dynamique-là, ne peut pas dire qu'il soit croyant d'une religion, mais il croit fortement dans le maoïsme, dans le communisme maoïste, et lui-même est également dans cette posture. Il y a vraiment un lien commun entre tous ces personnages, avec des degrés divers dans l'abomination. Hein. Al-Baghdadi, il est champion de toute catégorie, dans l'horreur, il ne rend de compte à personne. Mais vous avez un point commun chez tous ces personnages qui se sont messianisés. C'est-à-dire que dans les difficultés de notre monde, qui s'estime investi d'une dimension divine, d'abord de restauration d'un âge d'or perdu, et d'un renouveau complet de leur pays, avec une volonté surtout de rester au pouvoir très 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 longtemps, de façon à pouvoir remplir cette mission. Et avec la construction d'un discours extrêmement binaire, où vous êtes, avec ma vision messianique, où vous êtes un traître. Et là j'en donne de multiples exemples.
Donc culte du chef, individualisme qui s'accompagne de ce messianisme.
Voilà, rappel du passé, donc pour Poutine c'est le tsarisme orthodoxe, pour Erdogan c'est donc la sublime porte ottomane, pour Xi Jinping c'est la restauration maoïste, etc. Mais le point commun, et puis pour Al-Baghdadi, c'est la restauration du califat des temps anciens, salaf, des ancêtres, etc., etc. Tous ces personnages ont en commun une chose, la conviction que les miasmes occidentaux ont pollué leur espace. Et que pour régénérer leur nation, il faut absolument détruire ces liens, détruire ces miasmes, alors encore une fois d'une façon terrible, terroriste, radicale de la part d'Al-Baghdadi, mais chez les autres c'est également le même discours, et c'est pour ça que vous apercevez que chez des personnages comme Erdogan et Poutine, qui n'ont pas toujours été dans la posture psychologique d'aujourd'hui, et j'estime aujourd'hui que ce sont des frères jumeaux qui sont capables de s'assassiner, les histoires de l'homme, puisqu'ils sont capables d'abattre des avions, mais je parlais d'une poutinisation d'Erdogan, et le point commun, donc, c'est cette détestation du modèle occidental qui a pollué l'âme du pays, l'âme orthodoxe, donc il y a un rapprochement de la religion incroyable chez Poutine, l'âme islamique, mais non pas kémaliste, bien sûr, mais ottomane, et l'âme maoïste, c'est très clair dans les discours de Xi Jinping, il faut lire. Ce qu'on ne fait pas en France, de la même façon qu'on n'a pas lu Mein Kampf dans les années 30 et qu'on ne lisait pas les discours d'Hitler, on ne travaillait pas sur le texte. Il faut lire les textes. Ils affichent la couleur, c'est extrêmement clair, il n'y a pas besoin d'être un grand génie. Et donc, dans ce monde qu'on appelle zéro polaire, hein, après avoir été bipolaire, multipolaire, zéro polaire, vous avez le retour de l'histoire par la capacité à reconstruire des hégémonies impériales et avec des visions fondamentalistes qui sont soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que cette posture mentale, elle touche tous nos pays en politique intérieure. C'est-à-dire qu'il y a une émergence dans les extrêmes, gauche ou droite, des fondamentalistes qui nient l'altérité et qui sont dans des postures fondamentalistes. Je renvoie dos à dos Marine Le Pen et Mélenchon, qui, entre parenthèses, sont tous les deux des grands admirateurs de Vladimir Poutine. Et donc vous avez une cohérence, c'est pour ça que nous sommes revenus dans l'histoire avec des enjeux majeurs, parce que derrière tout ça, il y a des problèmes de sécurité, de retour de la guerre, de ce que j'appelle le désir de guerre. C'est ça qui me frappe beaucoup, il y a un désir de guerre, mais vous avez une fondamentalisation de nos opinions publiques, de la façon dont la politique se fait, et des émergences très fortes de partis populistes, nationalistes, comme on veut, ou d'extrême-gauche comme en Grèce, qui sont extrêmement préoccupants parce qu'ils s'alimentent justement de ce refus de l'altérité, du compromis, de la discussion, de la recherche d'une voie moyenne qu'on va tracer pour se positionner sur des postures d'imprécateurs. Je dénonce, je caricature, je rends le monde manichéen et là-dessus, je construis le lit de la guerre. Donc malheureusement, ça me casse les pieds de le dire, la guerre, sous des formes très, très diverses, et on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça va donner entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qu'est-ce que ça peut donner dans d'autres contextes, mais malheureusement, cette guerre qu'en Europe, nous avons écartée pendant 70 ans, et c'était très bien, nous avons vécu dans l'illusion qu'à partir du moment où nous la décrétions comme immorale, elle allait disparaître du paysage. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes effarés, tétanisés par ce qui se passe, par ce retour d'une guerre étrange. Malheureusement, c'est un phénomène nouveau. Et la génération, la jeune génération, qu'elle soit normale sup, qu'elle soit en apprentissage, qu'elle soit à l'usine ou qu'elle soit chômeuse, eh bien, les trentenaires qui ont été tués au Bataclan, c'est cette génération qui va devoir faire face à ce monde-là, alors que c'est une génération passionnante, avec plein de choses, mais que je trouve souvent très alimentée par le syndrome du gentil bisounours.
Alors justement, dans la troisième et dernière partie de votre livre, parce qu'il y a trois parties, donc ça va bien plaire aux normaliens, vous envisagez l'avenir et puis une victoire sur Daesh, mais vous envisagez la géopolitique à venir. C'est assez passionnant, je renvoie nos auditeurs à cette partie. Mais surtout, vous envisagez, et là on retrouve l'historien, le temps long. Et vous citez notamment Camille Grand, un chercheur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, qui parle même de guerre de 30 ans contre le djihado-terrorisme. Du coup, et ma question est un petit peu polémique, mais vous saurez aller au-delà. Est-ce que ça veut dire qu'on va rester en état d'urgence pendant 30 ans ?
Alors, écoutez, je ne suis pas un fan absolu de l'état d'urgence. En fait, moi, je suis assez pragmatique. Moi, ma question, c'est on fait comment pour être efficace en respectant nos valeurs ? Donc, c'est vraiment arriver à faire les deux. J'aime bien la définition, moi je suis assez gaulliste de fond, j'aime bien la définition qui avait été donnée du gaullisme jadis, un pragmatisme à principe. Ça, c'est mon mode de fonctionnement. Donc, moi, je n'ai pas de religion de l'état d'urgence, la déchéance de nationalité. Je suis fasciné par la capacité de la France et des Français à se bouffer le foie pendant des semaines et des semaines sur des questions qui sont totalement inopérantes, la déchéance de nationalité ne me pose aucun problème. C'est-à-dire, arriver à dire que ça peut poser un problème à un binational de se sentir menacé dans son identité, parce qu'on lui dit que si par hasard il avait l'intention de tuer des tas de compatriotes, non seulement il serait condamné, emprisonné, mais qu'en plus on lui dirait à la fin, écoutez, vous ne pouvez plus tellement être français, vous en avez tué des dizaines, que ça puisse poser débat est hallucinant. Mais les vraies questions ne sont pas là. Vous savez quelle est la vraie question ?
Dites-moi.
La vraie question, c'est de savoir si à la fin de 2016, vous et moi, on sera vivants. Est-ce que vous allez vous faire dessouder à la terrasse d'un café en sortant de Normal Sup avec des copains, vous allez discuter, etc. Est-ce que vous allez vous faire rafaler ? Moi, je suis colonel de réserve, c'est connu, je suis dans les médias, je suis chrétien. Je suis une cible potentielle. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on sera vivants tous les deux à la fin de l'année ? Alors évidemment, je fais ça de façon provocante, mais la question derrière, c'est comment on va faire pour empêcher que des Français soient tués dans cette année-là, sachant qu'on en a déjà eu 3 tués à Ouagadougou depuis le début de l'année, dont une jeune fille, journaliste, engagée. Donc, par rapport à l'état d'urgence et tout là, je m'en tamponne le coquillard. Moi, la question, c'est de savoir comment on fait pour être opérationnel et pour éviter de tomber dans le désastre des Américains, qui se sont crus invulnérables, et quand ils se sont pris 3500 civils morts en centre-ville à New York, ils ont pété un câble, et ils ont tout accepté. Moi, ce que je veux pas, c'est que demain, dans les sondages, on dise que 90% des Français sont pour la torture. Si on leur dit que torturer, ça va les protéger, qu'ils disent qu'on est pour la torture. Moi, je veux pas de ça. Donc, mon point, c'est ça, c'est-à-dire comment on fait concrètement. Et avant d'être sur l'extension de l'état d'urgence, question technique, je ne trouve pas que les résultats soient mirobolants. Moi, j'aurais voulu que l'état d'urgence soit décrété après janvier, tout de suite. On ne l'a pas fait parce que ça allait vexer la gauche de la gauche, machin, etc. Des gens qui ne comprennent rien, qui ne s'intéressent pas à ces questions. Donc là, moi, je ne veux pas retomber là-dedans. Je ne sais pas s'il faut le prolonger ou pas. Est-ce que c'est réellement efficace ? Et je veux dire, j'aimerais qu'on pose les vraies questions de fond. Comment on fait pour que nos services de renseignement, qui sont servis par des gens remarquables, soient plus efficaces ? Parce qu'ils n'ont pas été. Comment on fait pour venir à bout de ce qui, historiquement, et je renvoie à mon livre Le complexe de l'autruche, nous fait perdre toutes les guerres, à savoir la querelle de chapelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et avec une particularité française qui n'existe qu'en France, qui est que quand le pays est envahi, les généraux continuent ou les politiques continuent à se bouffer le nez. Le fait d'avoir des chicayas, que les gens se détestent ou des stratégies concurrentielles, ça existe dans tous les pays. Le seul pays où, quand le pays est envahi, on continue à le faire, c'est la France. J'entends dire que Manuel Valls en a marre de Macron, etc. Mais je veux dire, mais qu'ils ferment leur gueule. On doit faire un gouvernement de combat. Mais de combat, pas pour faire que la guerre. Il faut faire l'économie. Il faut se transformer, il faut bouger. Donc les vraies questions, c'est comment on fait pour regrouper les services de renseignement extérieur et intérieur. Alors, non, vous n'imaginez pas, vous n'y pensez pas. On va mettre la DGSE avec la DGSI, mais c'est pas pareil, etc. Je m'en fous de savoir si c'est pas pareil. Il faut le faire et mettre un ministre délégué auprès de Cazeneuve, en charge de ça. On me dit que du côté du ministère de l'Intérieur, vous avez 10 chapelles, entre la police judiciaire, les services de justice, les différents services intérieurs, ceux qui sont frustrés de la disparition des RG, etc. Il faut qu'on apprenne aussi aux responsables de la BRI et du RAID de fermer leur gueule et de ne pas créer une confusion en expliquant qu'ils tirent 5000 cartouches, qu'ils sont sous un feu intense, quand les résultats ne sont pas bons, etc. Autre question, qu'est-ce qu'on fait de l'armée ? Qu'est-ce qu'on fait du budget de la défense ? Quand j'étais au cabinet du ministre, il y avait 220 régiments. Il y en a 90. Il y a plus... Alors, je disais jusqu'à présent, il y a plus de fonctionnaires à la SNCF. Donc, Christophe Pied-Noël, qui est le directeur de la communication de la SNCF, qui est un titre très sympa, m'a appelé en me disant « Non, ce n'est pas exactement des fonctionnaires, ce sont des statutaires. »
Oui, vous avancez le chiffre de 140 000.
Oui, alors donc, effectivement, à la SNCF, vous avez 140 000, non pas fonctionnaires, mais donc statutaires. Eh bien, là, si on était allé jusqu'au bout des réductions d'effectifs, on arrivait à 100 000 militaires de l'armée de terre, c'est-à-dire beaucoup moins que de personnel de la SNCF, et surtout, symboliquement, l'équivalent de la Reichswehr de 1919, consécutif au traité de Versailles. Donc, voilà, la sodomie de coléoptère, ça a une limite.
Ou de drosophiles, comme disait. Voilà. Oui. Brillant. Alors, deux questions pour terminer cet entretien. Leur formulation est simple, la réponse peut-être moins. Pour reprendre le titre de cette émission, absolument essentiel. Qu'est-ce qui est absolument essentiel pour lutter contre le djihadisme ?
Alors, je dirais, en dehors de tout ce qu'on vient de partager, les valeurs, la transcendance, l'engagement. L'être humain n'est pas fait que pour répondre à un horizon économique. Alors, il est important l'horizon économique, et c'est aussi le nerf de la guerre, Dieu sait que c'est important. Ce que je veux dire par là, c'est que Daesh nous tend un miroir inversé. Nous ne savons pas nous engager, ils arrivent à récupérer des jeunes du monde entier qui vont se faire péter la calebasse à peine arrivés chez Daesh. Ils arrivent à séduire des jeunes filles qui en ont marre, des mâles occidentaux, qui sont surtout dans des postures d'hédonisme et de développement personnel et qui sont incapables de s'engager dans quoi que ce soit. Je ne parle même pas de mariage, choses comme ça, hein, qui sont très très archaïques, certainement. Moi qui suis marié depuis 37 ans, donc c'est même pas ça. Donc vous avez un certain nombre de jeunes filles, elles sont presque 25% des recrutements de Daesh, qui viennent de milieux différents, pas seulement musulmans, hein, qui viennent de milieux bourgeois, intellectuels, athées, etc., et qui vont aller épouser un moudjahidine de mari. Alors lui qui est très très engagé, parce qu'au bout de 6 mois, a priori, il est mort. Bon. Donc tout ça, ça veut dire qu'en creux, pourquoi Daesh arrive à mordre avec un discours apocalyptique aussi, qui est extrêmement intéressant. Ça n'est pas les nouveaux djihadistes, les personnes qui partent vers Daesh, c'est pas du tout des facteurs économiques et sociaux, contrairement à ce qu'on dit. Les frères Koulibaly, il y a eu des papiers remarquables, y compris dans Le Monde, c'est pas du tout des abandonnés de la République, c'est exactement le contraire. Ça montre aussi à quel point en France, et je m'en félicite, vous avez des services sociaux, des hommes et des femmes, dans différentes structures, qui accompagnent les gens en difficulté. Non, c'est pas ça. Donc, pour lutter contre ça, il faut réapprendre l'amour de la patrie, la République, les valeurs, l'engagement citoyen, lutter contre l'hyper-individualisme français-occidental, le virtuel d'Internet, tout est sur Internet, etc. Et donc, l'être humain n'a plus de consistance réelle. Et donc, d'une façon générale, je dirais, réapprendre la transcendance, qui pour moi n'est pas que spirituelle ou religieuse. La transcendance, ça peut être de l'art philosophique, des tas de choses, etc. C'est-à-dire une élévation de l'esprit, retrouver des choses qu'on a totalement abandonnées, et des premières choses de base. Moi, je suis un ardent patriote, je suis fier d'être français, j'aime la France, et je suis profondément européen. Donc l'Union européenne doit être pour moi, à mon sens, l'un des horizons politiques majeurs de la jeune génération. C'est un enjeu majeur. Pourquoi ? Parce que par rapport à ce que je décris, c'est-à-dire la montée des fondamentalismes, il y a au sein de l'Union européenne un bien infiniment précieux, c'est pour ça que je suis très sévère sur les Grecs, qui ont mis à mal cela, c'est-à-dire le respect et la volonté de faire la paix. L'Union européenne a été créée sur la paix. Quand je disais ça dans des débats, il y a longtemps, au Monde, j'étais responsable des affaires européennes, Vous me direz, mais oui, bien sûr, l'Union européenne, c'est la paix. Mais non, c'est pas bien sûr. C'est un acquis absolument fabuleux. Moi, je connais très bien le fonctionnement des institutions européennes. Il y a plein de difficultés en ce moment. L'Europe n'a pas de stratégie de puissance. Et puis, elle est impactée complètement sur un de ses fondamentaux, à savoir la paix et le refus du retour de la guerre. Le vrai combat qui va être long, c'est un combat sur les valeurs, sur la République, sur le vouloir vivre ensemble, sur le fait de dégager du collectif, de la fierté nationale. Regardez, ça me frappe beaucoup. Qui nous a dit à nous, Français, qui passons notre temps à nous dénigrer, à nous trouver tout motif de repentance, etc., qui nous a dit « mais vous êtes importants pour nous, nos amis étrangers ». C'est-à-dire que beaucoup de Français ont redécouvert qu'ils étaient importants, qu'ils comptaient aux yeux de personnes dans le regard de nos amis du monde entier. Eh bien, c'est quand même un peu grave, c'est tout ça qu'il faut reconstruire, et c'est pour ça que parler d'une guerre de 30 ans, à mon avis, ce sera peut-être de 50 ans.
Dernière question, je la pose à tous mes invités, elle est rituelle. Dans la vie, Pierre Servent, qu'est-ce qui est absolument essentiel ?
L'amour, c'est ça qui est absolument essentiel. Avant les attentats du 13 novembre, je fais beaucoup de conférences, j'en ai fait une devant un parterre d'hommes d'affaires, de banquiers, de gens qui font des placements, de l'asset management, etc. Je leur ai raconté ce qui allait se passer. C'est-à-dire les attentats, c'était absolument évident. On savait aussi que ça se passerait dans une salle de concert, etc. Non. Puis j'aurais fait une analyse géostratégique. Ce qu'on vient un peu de faire ensemble, je l'aurais fait avant le 13 novembre. Et aussi dans qu'est-ce qu'il faut faire, il y a les dimensions budgétaires, secrets, etc. Et puis personnel, en disant, voilà, il faut s'engager, il faut changer de posture. Et juste à la fin, quelqu'un m'a dit, oui, mais alors bon, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et je leur ai dit la chose suivante, je lui ai dit, mais écoutez, c'est très simple, ce soir vous allez rentrer chez vous, et la personne à qui vous n'avez pas dit je t'aime ou je vous aime depuis longtemps, vous allez l'appeler et vous lui dire ça. L'important, c'est ça. Donc l'important, c'est l'amour.
Belle conclusion. Merci Pierre Servent.
Merci à vous.
C'est la fin de la deuxième partie de cet entretien réalisé avec Pierre Servent. Je vous remercie pour votre écoute, toujours fidèle. Je remercie également Caroline Babule et Sabrine Berada des éditions Robert Laffont. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas l'essentiel.